Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Laurent et bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça va être riche, ça va être varié ce soir encore. Avec du concret à 18h15, puisque le ministre délégué aux PME viendra nous annoncer les mesures de soutien aux commerçants fermés qui se retrouvent avec des stocks parfois énormes sur les bras, que ce soit les chausseurs, les boutiques de vêtements et autres. À 18h30, du sourire et un œil particulièrement cru sur l'actualité, celui de Philippe Cavrivière. Et puis juste après, vers 18h40, la patronne du château de Versailles, Catherine Pégard, qui nous invitera dans l'incroyable bureau de Louis XV. Il vient d'être restauré, une page d'histoire qui va nous faire voyager. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres dans l'actualité de ce mardi 30 mars.
Et à la une ce soir, l'opposition qui s'impatiente à la veille d'un nouveau conseil de défense. De plus en plus de voix dénoncent le mutisme d'Emmanuel Macron. Dans ce journal également, la France accusée de bavure au Mali. Cette fois, c'est l'ONU qui le dit. Et puis, je vous emmènerai à la piscine. Et oui, c'est à nouveau possible.
Ça sera avec grand plaisir. La météo, Peggy Broche, il va faire un temps à la piscine. Encore une magnifique journée demain.
Exactement, Thomas. Pas grand-chose à signaler. Juste quelques entrées maritimes. Donc, un ciel un peu plus nuageux sur le Languedoc le matin, avec un petit vent d'automne. Tout ça va très vite se dissiper. Tout le monde profitera d'un beau ciel bleu avec des températures encore en hausse l'après-midi de 17 à Perpignan à 28 à Bordeaux, 25 à Strasbourg, Lyon, Rennes et Paris.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Mais d'abord, on a choisi ce soir de se projeter un peu, de s'évader. On en a tous besoin. Vous entendez,
ouais.
Thomas, les cigales, les vagues. Eh bien, la SNCF a ouvert aujourd'hui les réservations pour les vacances d'été. Alors, c'est vrai. Ça paraît un peu loin.
Ça paraît improbable, ça paraît loin.
Improbable,
ça paraît tout.
Mais il y a de bonnes affaires à faire, Arnaud Touche.
Eh bien oui, que diriez-vous de partir à Marseille depuis Strasbourg à partir de 49 euros l'aller simple. Ce sont là les tarifs d'appel, mais par exemple en TGV, il y a des billets à 134 euros l'aller-retour par personne depuis Paris pour Nice. Et il y a cette année l'option train de nuit. Il vous en coûtera 56 euros de moins. Mais forcément, Amandine, beaucoup de gens ne savent pas encore de quoi sera fait notre été. Et du coup, la SNCF a décidé que tous les billets TGV, Ouigo et Intercité pour des voyages entre le 19 avril et le 29 août 2021 seront échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 3 jours avant la date de départ.
Et pour appâter le client, Arnaud, la SNCF nous promet aussi plein de nouveautés dans les trains.
Oui, et elles se verront notamment sur votre portable si vous vous connectez au Wi-Fi du TGV, comme le détaille Alain Krakowicz, le PDG de Voyage SNCF.
En fonction de votre profil, si vous êtes une famille, si vous êtes un professionnel, vous pourrez avoir accès à la presse et puis des films. On propose ça, il suffit pour ça de se connecter sur wifi.sncf. Et tout ça, c'est complètement gratuit.
Et enfin, vous pourrez chatter avec d'autres voyageurs du TGV grâce à l'application. Pratique, quand il est aujourd'hui conseillé, de ne pas se déplacer à bord.
Qu'est-ce que c'est que ça va draguer? Ça va draguer dans
oui.
Le train, dis donc.
Merci beaucoup, Arnaud Touche.
C'est pour ça que vous avez pris 17 billets de train cet après-midi.
C'est ça.
Je vous reconnais bien là.
J'ai fait le plein. Bon, en attendant, la règle, Thomas, vous la connaissez, hein, c'est pas plus de 10 km autour de chez soi, en tout cas, dans les 19 départements semi-confinés, à quelques jours du grand week-end de Pâques. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs prévenu, il y aura des contrôles renforcés dès jeudi. Demain, nouveau conseil de défense à l'Élysée. Et pour l'instant, aucune prise de parole d'Emmanuel Macron. Rien de prévu, en tout cas pas officiellement. Et ça, eh bien, ça commence à agacer. Illustration tout à l'heure à l'Assemblée avec le député socialiste David Habib. Vous entendrez ensuite la réponse d'Olivier Véran.
Cela ne peut plus durer. Le Covid en France, c'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écrase chaque jour. Il vous faut entendre les médecins, les enseignants, les élus, le Parlement. Un homme seul ne peut pas décider pour 66 millions d'habitants.
Nous aurons poussé jusqu'au bout du bout les mesures innovantes pour permettre de contenir le virus, de maintenir les libertés individuelles et collectives maximales aux Français. Et si vous avez des bonnes idées auxquelles nous n'aurions pas pensé ou aucun pays occidental n'aurait pensé avant nous, ma porte est évidemment ouverte.
Des propos recueillis pour RTL par Marie Mollet. Côté médecin, vous le savez, ils sont nombreux à réclamer un nouveau confinement pour éviter, disent-ils, de trier les patients. On les a beaucoup entendus ces derniers jours. Ce soir, la Fédération hospitalière de France appelle à la mesure et se veut rassurante.
Nous partageons tout à fait ce cri d'alarme des hospitaliers. C'est la réalité qui est la saturation des services de réanimation. Mais ce que je veux absolument dire à tous, c'est qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à l'accueil et à la prise en charge des patients à l'hôpital public. Donc soyez rassurés, Les mêmes équipes seront là et seront toujours là pour vous prendre en charge.
Il y aura bien une prise en charge, dit ce soir sur RTL. Zainab Brié, c'est la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Elle était au micro RTL d'Odile Pouget.
Et puis sans surprise, le nombre de fermetures de classes, lui, augmente, notamment à Paris. Ça augmente, ça s'accélère. Le chiffre a été multiplié par 2 en 24 heures dans la capitale. Conséquence du nouveau protocole qui s'applique dans 19 départements. Un cas de Covid et c'est toute la classe qui ferme.
Dans l'actualité également ce soir, le début du procès de cet homme accusé d'avoir foncé en voiture sur une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne. C'était en août 2017. Une adolescente de 13 ans avait été tuée. Cet après-midi, à la barre, l'accusé a présenté ses excuses, Sébastien Rouxel.
Oui, le crâne rasé, David Patterson s'adresse aux victimes sans les regarder. « Je voudrais demander pardon », dit-il d'une voix chevrotante. L'homme de 36 ans reconnaît les faits, mais nie la préméditation. « J'étais en plein épisode de délire. » Face à lui, trois personnes serrées les unes contre les autres, le père, la mère et le grand frère d'Angela tué ce soir-là. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il était à bord de sa BMW, le regard froid, souriant. Maître Mazon est leur avocat.
Ils ont mal reçu ces excuses qui arrivent très très tard et qui semblent très opportunistes. Là, en garde à vue, juste après les faits, reconnu la préméditation. Et puis à la fin de l'instruction, c'était un accident. Et là, il démarre l'audience en disant qu'il avait bien l'intention de tuer, mais que ça n'était pas prémédité. Ça reste en deçà de la réalité.
La réalité, le président l'a décrite cet après-midi. Midi, d'abord des crissements de pneus, puis des cris, des hurlements, une scène de chaos. Durant cet exposé, plusieurs parties civiles laissent couler leurs larmes. Une trentaine sont présentes pour obtenir des réponses, car les motivations de David Patterson restent floues. Cet après-midi, son père puis sa sœur ont décrit un homme souffrant de troubles psychiatriques, mais pas suicidaires. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Et Sébastien Rouxel à la cour d'assises de Melun pour RTL. Et puis au procès IKEA, l'avocat général a requis des peines exemplaires. Ce sont ses mots contre ceux qui sont accusés d'avoir espionné des salariés et des clients. Un an de prison ferme contre un des anciens PDG, pas moins de 2 millions d'euros d'amende contre IKEA France.
Toute petite pause, le temps de prendre un verre d'eau et on va s'intéresser à l'armée française accusée de bavure au Mali. C'est à suivre dans RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal Amandine Bégaud avec cette accusation formelle de l'ONU. Oui, la France a bien tué des civils au Mali, disent les Nations Unies.
19 civils précisément lors d'un mariage. Les faits remontent au mois de janvier dernier, Émilie Beaujard.
Oui, une enquête de 3 mois, une centaine de personnes interrogées et l'ONU conclut que la frappe française a bien touché un mariage qui réunissait alors une centaine de civils et 5 djihadistes affiliés à Al-Qaïda. C'est aussi la position défendue depuis le début par Amadou Ndiko, le président d'une association Peul. Il était au micro de Brice Dugénie en janvier dernier.
Mais cette fois-ci, ils ont frappé sur des personnes que nous connaissons. Parce que moi, je suis de la zone et je connais certaines victimes. Il y a des amis parmi les victimes et je sais que ce n'est pas des djihadistes. C'est une erreur monumentale qui s'est passée, malheureusement.
Une erreur de frappe que réfute à nouveau aujourd'hui le ministère français des armées. Selon son porte-parole, Hervé Grandjean, il s'agissait bien d'un rassemblement de djihadistes.
Très concrètement, il y avait un drone Reaper qui survolait la zone plus d'une heure et demie avant l'heure de la frappe. C'est le croisement de tous ces renseignements qui nous fait décider avec une assurance totale qu'il s'agissait bien de groupes armés terroristes. Et donc, oui, nous récusons l'hypothèse selon laquelle des victimes civiles auraient pu être touchées par ces frappes.
La France met en doute la méthodologie du rapport et parle de témoignages invérifiables.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL, le foot.
Oui, la page des sports. Demain, il y a match, hein, c'est ça, France-Bosnie.
Et oui, exactement. Et on va tout de suite retrouver Philippe Sanfourche en direct de Sarajevo. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Troisième match en une semaine pour les Bleus. L'enjeu est important. Il s'agit toujours des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que les hommes de Didier Deschamps en ont encore sous le pied, si j'ose dire?
Ah, ils sont fatigués, hein, c'est certain, après leur périple au Kazakhstan, les 5 heures de décalage dans un sens, 4 heures dans l'autre. Pas trop de bobos à l'infirmerie, si ce n'est le genou d'Anthony Martial qui ne participe pas hein, d'ailleurs à l'entraînement ce soir, sans que ça préjuge pour autant d'un forfait pour demain. Côté sanitaire, tous les tests du jour se sont avérés négatifs. Le capitaine Hugo Lloris se veut donc plutôt rassurant pour demain.
Déjà, il reste encore 24 heures, une séance d'entraînement. Je crois que le plus important, ce sera de répondre présent mentalement. Après, les jambes vont suivre. Mais à la différence des Bosniens qui ont eu une semaine un peu moins chargée que la nôtre, ils risquent de démarrer fort. Donc, à nous d'être prêts dès les premières minutes du jeu, à faire les efforts, bien rentrer dans le match.
Ce sera aussi le dernier match avant la liste pour l'Euro au mois de mai. Les joueurs le savent, ils promettent que les enjeux individuels n'auront pas d'incidence demain sur la performance collective.
Non mais Philippe, la seule vraie question, c'est costaud la Bosnie ou pas, en vrai?
Ça perd rarement. Ah, mais ça gagne pas souvent.
Philippe Sanfourche en direct de Sarajevo avec Jonathan Griveaux pour RTL. Merci à tous les deux et Bosnie-France. Hein, ce sera bien sûr à suivre demain en direct sur RTL. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et chose promise, chose due, je vous emmène piquer une tête. Pas mal avec
vous êtes
ce
très
beau
piscine,
temps.
Vous avez ouais, avec j'adore. La mer, les, ouais, les grillons.
J'ai envie,
avec la
là, j'ai besoin. Bon, depuis hier et partout en France, les piscines peuvent rouvrir. Petit bémol, il faut un certificat médical à Paris. Reportage d'Alice Marot.
Dans son maillot de bain bleu, Louis enchaîne les longueurs. Quand il s'est luxé l'épaule et que son médecin lui a prescrit la natation pour se soigner, il a sauté sur l'occasion.
Ça fait du bien de reprendre parce que ça manquait. Hein. Normalement, je nage 3 à 4 fois la semaine. Et là, j'avais pas nagé depuis octobre. Donc ça fait du bien de revenir nager. Ouais.
Plusieurs dizaines d'habitués avec des problèmes de santé ont déjà poussé la porte aujourd'hui. Une bonne surprise pour Vincent, le directeur. Il a appris qu'il pouvait rouvrir la semaine dernière.
Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on était fermé. En toute franchise, on était un petit peu surpris de l'annonce de la semaine dernière puisqu'on n'a pas d'explication plus que ça.
Car le protocole sanitaire est exactement le même qu'avant la fermeture à la mi-janvier. Cabine désinfectée, masque jusqu'aux douches.
Tout en sachant que l'eau n'est pas un souci en soi puisque l'eau est chlorée, donc désinfectée et désinfectante.
De quoi rassurer Magali qui souffre d'une maladie longue durée.
Je trouve que c'est bien en place parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de risque quand on fait attention. Et puis si on vient, c'est qu'on est en bonne santé parce qu'on aurait plus de force. Donc il y a aussi déjà une première barrière, il me semble. On a quand même vécu un an difficile. Donc petit à petit, avec des mesures comme ça, ça me paraît vraiment très bien.
La piscine est ouverte au public prioritaire tous les jours sur présentation d'un justificatif.
Alice Marot à la piscine, Joséphine Becker dans le 13e arrondissement.
J'en connais qui vont faire du charme à leur médecin.
Ah,
merci
oui.
beaucoup à vous, Amandine. Que faire pour aider les commerçants fermés qui se retrouvent avec des stocks considérables sur les bras dans un instant et même tout de suite, Alain Grisé, ministre délégué au PME et l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le ministre délégué en charge des PME, Alain Grisé, donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Alain Grisé.
Bonsoir.
Des dizaines de milliers de commerçants sont fermés dans les 19 départements où les mesures de confinement ont été un peu renforcées. Il y a évidemment aussi tous les restaurateurs fermés depuis des mois et des mois. Ça concerne aussi les magasins de vêtements, les magasins de chaussures qui se retrouvent avec des stocks parfois très importants sur les bras. Le gouvernement a dit qu'il allait les aider. De quelle manière, Alain Grisé ?
Comme Bruno Le Maire l'a dit au mois de novembre, au moment du deuxième confinement, il y a peut-être un sujet sur les stocks. On a donc permis aux commerçants au mois de décembre de pouvoir travailler à peu près correctement. Au mois de janvier, on a décidé la période de solde qu'on a rallongée. Et là, on a constaté avec le représentant qu'il y avait des surstocks. Et donc, il y a quatre secteurs qui sont vraiment des secteurs où il y a la saisonnalité. Les chaussures, le vêtement, les magasins de sport et la maroquinerie, dans lequel effectivement on constate un surstock. Et donc nous avons décidé de mettre en place un dispositif qui doit être simple, compréhensible, facile d'accès, qui consiste à dire que ceux qui étaient au mois de novembre ont touché le fonds de solidarité, on va leur verser 80% de ce qu'ils ont touché au mois de novembre, en plus des aides habituelles.
Donc ce qu'ils ont touché au mois de novembre, pour les magasins de sport, c'est ça, de chaussures, de vêtements et la maroquinerie, ils vont toucher 80%. Ça sera forfaitaire.
Voilà, forfaitaire.
Touché quand ?
Alors ça va être très simple, donc ça va être, je veux dire, avril, début mai, parce que ça doit être simple et rapide. Ils ont besoin de liquidité. Donc c'est le fonds de solidarité du mois de novembre. Et on va leur verser 80% qui correspondra à l'aide que le gouvernement apporte sur ces surstocks.
Et qui viendront se cumuler avec les autres aides
avec
qui sont déjà présentes.
Activité partielle, exonération de cotisations sociales.
Il n'y aura pas à estimer le montant des stocks, le niveau des stocks. Il n'y a pas du tout ce genre de démarche à faire.
Non, parce qu'on a étudié beaucoup de dispositifs en concertation avec les représentants du commerce. Mais on a bien vu que tous les autres dispositifs étaient d'une complexité de gestion et auraient pris plusieurs mois pour payer. Et donc aujourd'hui, nous avons souhaité faire quelque chose de rapide, de compréhensible et d'efficace.
Ça fait une enveloppe que vous estimez à combien au total ?
Environ 200 millions.
200 millions
d'euros.
C'est
à peu près 35 000 entreprises qui vont être concernées. Et c'est vraiment ceux pour lesquels ces stocks représentent une partie importante aujourd'hui qui leur reste sur les bras. Mais c'est vraiment de la saisonnalité. Donc c'est vraiment des stocks qui, pour beaucoup d'entre eux, ont du mal à être écoulés.
Ça veut dire que c'est de l'argent qui devrait être remboursé ou c'est une subvention, une aide qui ne doit pas être remboursée ?
Pas du tout, c'est le fonds de solidarité.
C'est le fonds de solidarité.
Donc c'est quelque chose qui est donné, qui est là pour accompagner des secteurs qui sont en difficulté et qui ont besoin de ce soutien pour pouvoir après repartir.
Ouais, donc annonce très concrète ce soir pour ces quatre secteurs-là. Des secteurs qui ont aussi souffert des soldes d'hiver, qui n'ont pas été un grand succès. Est-ce que vous avez des chiffres qui remontent déjà sur ces soldes ?
Alors tout ça est très variable suivant les territoires et les secteurs, mais globalement, on nous dit qu'il y a à peu près 25 à 30% de moins que l'année précédente, donc ce qui justifie l'aide que nous apportons à ces commerçants.
Et en plus de cette aide que vous nous annoncez, est-ce que les soldes d'été pourront être avancés peut-être ? Est-ce que c'est prévu ça ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres périodes de soldes ou c'est pas d'actualité ?
Non, c'est pas d'actualité pour l'instant. Il y a tout un travail suite à la demande du Premier ministre au Conseil économique et social qui nous a remis un rapport sur une politique commerciale en France. Et donc dans cette négociation que nous allons engager, il y aura un sujet effectivement sur la période des soldes. Il y a toujours une négociation tous les 6 mois, un peu compliquée, donc je pense qu'il faut qu'on regarde ça très tranquillement.
Donc pas de soldes supplémentaires, mais les soldes d'été auront lieu.
A priori, oui. Mais il n'y a rien pour l'instant en termes de modalités ni de date.
Ni de date. Alain Griset, vous aviez dit ici même il y a 10 jours au grand jury que la liste des magasins autorisés à ouvrir pourrait évoluer en cas d'aberration. C'était le terme que vous aviez employé. Aujourd'hui, on peut acheter un pyjama pour un enfant de 3 ans dans un magasin de puériculture, mais on ne peut pas acheter un pyjama de 4 ans puisque les boutiques de vêtements pour enfants sont fermées. Est-ce que ce n'est pas une aberration, ça ?
Vous savez, toutes les mesures dans lesquelles il y a des seuils, il y a des critères, font que juste au-dessus, juste en dessous, on peut toujours considérer que c'est une difficulté. Donc le principe, c'est de dire puériculture, c'est ouvert. Et donc naturellement, il arrive un moment où on va juste au-dessus. Et la difficulté, c'est qu'on dit effectivement à 2 ans, c'est bon, à 3 ans, ça ne l'est pas. Bon. C'est tout la question des
seuils. Mais vous comprenez que ça puisse interpeller. Les disquaires sont ouverts, et tant mieux pour eux, mais on a moins besoin de disques que de chaussures. Et là, vous nous annoncez un dispositif pour aider les vendeurs de chaussures, et ce qui est bien utile, ce qui est nécessaire, ce qui est vital pour beaucoup d'entre eux. Mais est-ce que vous comprenez que là encore, ça interpelle ?
Je comprends totalement.
Ouais.
Je comprends d'autant plus que je sais très bien que pour l'ensemble de ces professionnels, fermer, c'est difficile. Mais il faut peut-être insister sur 2 éléments. D'abord, sur votre antenne, et depuis quelques jours, un peu partout, on évoque la difficulté sanitaire. Mm-hmm. Le virus qui prend de l'ampleur. Et donc, il faut bien, à un moment donné, prendre quelques décisions, dont on sait qu'elles sont toujours difficiles.
Ouais.
Puis, par ailleurs, permettez-moi de dire à cet instant combien l'État français, le gouvernement, met en place des dispositifs d'accompagnement extrêmement puissant pour accompagner ceux qu'on ferme. C'est-à-dire que lorsqu'on ferme une entreprise, on ne dit pas « point, il n'y a rien à voir ». On accompagne, souvent on compense, activité partielle, exonération de cotisations et fonds de solidarité. Je pense globalement, on essaie de trouver des solutions adaptées.
Et toutes ces aides seront versées jusqu'à quand ? Le quoi qu'il en coûte, pour l'instant, c'est toujours à l'infini ?
C'est quoi qu'il en coûte, le temps qu'il faut.
Quoi qu'il en coûte, le temps qu'il faut.
Le temps qu'il faut. Ouais. Le temps où l'activité économique sera réduite, où on va demander à des entrepreneurs de fermer, il est normal que l'État accompagne. Le résultat, pour nous, attendu, c'est dire quoi ? C'est le jour où on reprend, le tissu économique est présent. Et pour l'instant, le constat, depuis le mois de mars 2020, nous avons maintenu le tissu économique. Il y a même moins de défaillances que les années précédentes.
Vous l'avez maintenu, il y a un effort considérable et qui est unique au monde, hein, qui est fait en France, il faut le dire. Mais après, il y a la sortie du coma, la sortie des perfusions. Est-ce que vous ne redoutez pas, vous qui êtes le ministre délégué au PME, que quand on va supprimer ces aides, ça finira par arriver, il y a un effondrement d'une partie des PME et d'un nombre important de PME ?
Non, sincèrement, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va regarder la façon dont on va sortir de ce dispositif, et on ne va pas le faire brutalement. Mmh. Et deuxième élément, on a un élément de comparaison. C'est ce qui s'est passé au mois de mai 2020. Le 14 mai, lorsqu'on a repris, le 11 mai, pardon, il y a eu mai, juin, juillet, août, la reprise a été très bonne. Et moi, je pense que les Français auront envie, dès que possible, de reconsommer. Pour ceux que ça a été possible, il y a de l'argent de côté actuellement, 165 milliards, il y a le plan de relance. Et j'ai vraiment le sentiment que les entreprises, on les a maintenues et elles vont pouvoir reprendre rapidement l'activité.
Mais en tout cas, pour l'instant, au moment où on se parle, ce soir, il n'y a pas de nouveaux arbitrages prévus, il n'y a pas de nouvelles professions, nouvelles boutiques qui pourraient rouvrir. Ça, ce n'est pas du tout d'actualité.
Non, je pense que l'actualité, depuis quelques jours, elle est malheureusement l'aggravation sanitaire. Et dans cette situation-là, je crois que personne ne comprendrait qu'on puisse réouvrir, alors que par ailleurs, il y a peut-être des décisions importantes qui seront prises dans les prochains jours.
Qu'est-ce qu'il va dire Emmanuel Macron demain ?
Je ne le sais pas, sincèrement.
Ouais.
Il y a demain un conseil de défense. C'est le principe de la concertation, conseil de défense, analyse des résultats et après, éventuelle décision.
Et il parlera demain soir, le chef de l'État ?
Je ne sais pas.
Vous ne le savez pas ? Vous n'avez pas le droit de le dire ?
Non, je ne le sais pas. Ouais. Sincèrement.
Vous ne savez pas s'il y a du reconfinement dans l'air, par exemple ?
Non, pas du tout.
Ouais. Et où est-ce que vous voyez le bout du tunnel, vous, Alain Griset ?
Le bout du tunnel, d'abord, quand on compare à ce qui s'est passé il y a un an, c'est que maintenant, on sait que le vaccin est efficace. Et donc, le bout du tunnel, c'est au moment où on aura réussi avec la vaccination, à avoir la possibilité de reprendre une activité économique à peu près correcte. Le président disait il y a quelques semaines, on pense qu'à la fin de l'été, les choses iront mieux. Le Premier ministre a donné comme objectif 30 millions de Français vaccinés au mois de juin. Donc on voit bien que là, on commence à avoir, non pas des dates, mais des perspectives en termes de période où l'activité pourrait reprendre.
C'est un peu la ligne d'horizon. On a l'impression que les perspectives, elles reculent à mesure qu'on avance. Parce qu'on avait une perspective aussi mi-avril dont avait parlé Gabriel Attal. Là, on a en mi-avril.
Quand on regarde un peu les différentes phases, il y avait une inquiétude, une interrogation après, vous savez, les réveillons, 24 décembre, 31 décembre. Tout le monde nous disait, attention, le 15 janvier, il risque d'avoir un éclatement. Et le 15 janvier, nous avions dit, nous regarderons la situation. Nous avons regardé, et en gros, il n'y a pas eu d'affolement à ce moment-là. D'où le président a dit, pour l'instant, on est dans une situation où il y a un plateau, on peut tenir.
Et si reconfinement il doit y avoir, nouvelles aides il y aura aussi ?
En tout cas, il y aura à la fois le soutien que nous connaissons, qui est très fort. Je pense que ce qui a été fait avec le Fonds de solidarité depuis le mois de décembre, aujourd'hui correspond aux besoins des entreprises. Donc, on continuera de regarder, on adaptera les dispositifs si nécessaire. Je crois que nous avons montré la capacité aujourd'hui de l'État de s'adapter aux besoins au fur et à mesure de l'évolution.
Dernière question, elle concerne votre collègue du gouvernement, Roselyne Bachelot, est hospitalisée depuis plusieurs jours. Est-ce que vous avez quelques nouvelles à nous donner de la ministre de la Culture ?
D'abord, une pensée sincère pour elle. Ce que j'ai entendu, c'est que apparemment, elle était toujours dans le service avec oxygénation et situation difficile, mais a priori un peu mieux, mais sous toute réserve. Et j'espère que vraiment ça ira mieux dans les prochains jours.
Merci beaucoup Alain Griset d'être venu ce soir nous annoncer ces annonces pour quatre secteurs. Donc je pense sous votre contrôle, les chausseurs, les maroquiniers, les magasins de sport et les magasins de vêtements qui vendront une subvention égale à 80% des aides qu'ils touchaient au mois de novembre pour les aider à gérer leur stock.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup d'être venu ce soir dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, vous allez nous parler entre autres des fermetures des classes.
Oui, les classes qui fermeront dès le premier cas de Covid. En fait, on applique aux classes et aux élèves le même principe que pour une bourriche d'huîtres. S'il y en a une qui n'est pas fraîche, ben on jette tout. Alors c'est un peu sévère, je trouve, parce que si on avait fermé les églises dès le premier cas de pédophilie, eh ben on serait tous musulmans, ou juifs, ou bouddhistes. Enfin, on aurait changé de club.
Voilà, le regard particulier de Philippe Cavrière sur l'actualité, c'est juste après le rappel des titres à 18h30. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une, le nombre de patients hospitalisés en réanimation qui dépasse ce soir la barre des 5000. 5072 précisément, ce sont les tout derniers chiffres de Santé publique France. Chiffres scrutés de près, bien sûr, à la veille d'un nouveau conseil de défense. Ce sera demain à l'Elysée. Ce soir, sur RTL, Alain Griset, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, annonce de nouvelles aides pour les commerces actuellement fermés. Pas de solde supplémentaire ni d'évaluation des stocks. Ils toucheront 80% de ce qu'ils ont perçu au mois de novembre. 35 000 entreprises sont concernées. Dans l'actualité également, ces réquisitions au procès IKEA. Un an de prison ferme, notamment contre un des anciens PDG accusés d'avoir espionné salariés et clients. La décision devrait être mise en délibéré. Et puis c'est l'une des conséquences inattendues du, ou plutôt des confinements. Les Français ont moins lu. 14% d'entre nous n'ont lu aucun livre en 2020. 25% n'en ont pas acheté de neuf.
Alors, petite précision, parce qu'Alain Griset est resté avec nous. C'est sûr. Je parle sous votre contrôle, Alain Griset. On est d'accord qu'on parle des commerces qui ont bénéficié du fonds de solidarité au mois de novembre. C'est ceux-là qui sont concernés.
Parce qu'actuellement, il n'y a que 19 départements dans lesquels ils sont fermés. Et là, on touche la totalité de tout le territoire. C'est ceux qui étaient fermés au mois de novembre.
Ce n'est pas seulement pour les 19 départements concernés. La météo, Peggy, chaud devant demain.
Oui, exactement. Et ça va faire du bien encore. On a battu des records hier, on a battu des records aujourd'hui. On pourrait en battre encore demain. On attend 28 degrés à Bordeaux, 27 à Biarritz, 26 à Grenoble, 25 à Paris, Metz, Nancy, 23 à Lille, 21 à Cherbourg comme à Marseille. Alors côté Méditerranée, l'influence maritime limite un petit peu la hausse des températures. 18 à Montpellier, côté ciel magnifique, rien à signaler à part quelques grisailles matinales sur le Languedoc, mais ça va très vite se dissiper.
Ça se gâtera un peu plus tard. L'œil de Philippe Cavrivière, faites pas le malin parce que le ministre est resté, il va surveiller aussi ce que vous dites.
Oui,
bonsoir
si
Philippe.
Je règle le passage sur Macron ou c'est trop tard.
Tant ne changez rien, c'est trop tard.
On
ne
change rien, on ne change rien.
Mais ça dit, je vous trouve quand même souriant et détendu, Philippe.
Je suis détendu parce que c'est l'heure d'été. Quel bonheur de se lever une heure plus tôt. Hein, Peggy, c'est vrai qu'on passe la journée toute jetlaguée et ça nous rappelle le temps où on pouvait voyager et sans tous les soucis du voyage. Les coups de soleil, les valises perdues, les moustiques,
oui.
Les MST.
Non.
Oui, oui, Thomas. C'est vrai qu'on ramène parfois autre chose que des magnettes à coller sur le frigo.
Je ne raconterai pas votre vie, c'est couvert par le secret médical. On commence avec Emmanuel Macron, donc, qui garde la même stratégie. Attendre au maximum avant un éventuel reconfinement strict que tous les médecins réclament, en tout cas que beaucoup de médecins réclament.
Emmanuel Macron, notre président, attend au maximum. Emmanuel Macron, c'est un moniteur de saut en parachute qui ouvre le parachute à 5 mètres du sol. Alors, ça va être brutal, hein. Quand t'as les chevilles qui rentrent dans la boîte crânienne, c'est que t'as tapé trop fort. Réponse demain soir. Ou pas, on verra.
Ou pas. On va parler de l'alerte de ces 41 directeurs d'hôpitaux. Ils préviennent, le président et les réanimations saturent. Ils vont être obligés de trier les patients, disent-ils.
Alors, bon, c'est sûr que vu d'ici, ça fait pas peur. Mais demain, si t'es dans un couloir d'hôpital avec plusieurs malades à attendre une place en réa et que tu vois l'interne faire plouf-plouf entre les brancards, si vous n'avez jamais eu de chance au jeu, bah vous avez une petite angoisse qui monte rapidement. Ce sera toi qui ira en réa.
Oh, ça tombe sur toi.
C'est pas sur monsieur le ministre, dommage. Puis on sait comment ça va finir. Les médecins choisiront les patients les plus beaux, les plus présentables en cas de visite surprise du ministre.
Évidemment.
Ce ne sera pas nous, Thomas.
Bon, en tout cas, il y a un vrai problème de déprogrammation de certaines opérations dont se peignent certains malades du cancer. Axel Kahn, le président de la Ligue nationale contre le cancer, a alerté sur ce phénomène.
Oui, c'est injuste, mais en même temps, le cancer, il faut bien l'avouer, n'a pas su se renouveler. Il vit sur ses acquis, le cancer, et il ne sort pas beaucoup de sa zone de confort. Il n'y a pas eu le cancer brésilien, le cancer new-yorkais, le sud-africain. Vous diriez, bah, j'ai un petit cancer brésilien, tout de suite l'interlocuteur sera interpellé. Hey, super ! De Salvatore de Bahia. Bah, t'as tout de suite l'impression que tu vas avoir une chimio à la caipire, à la cachaça, hein, la vraie, pas la... une chimiothérapie, ou que la tumeur se balade en string avec des maracas. Mais c'est tout de suite plus sympa. Mais vous avez dit au ministre de rester aussi, c'est trop tard.
Concrètement, Axel Kahn le dit, les personnes atteintes de maladies plus graves, plus anciennes que le Covid, ont vu leur priorité diminuer. C'est ça le problème.
Donc en clair, les hôpitaux sont en train de se transformer en boîte de nuit hyper select. Larry Boisière va devenir le VIP room de Jean Roch.
Bonsoir monsieur, vous êtes combien?
Je suis tout seul, je fais un début d'AVC.
Ouais, ok, mais c'est une soirée Covid, là, monsieur, ce soir. Faut venir avec un variant ou un test PCR positif. Vous allez prendre une bouteille d'oxygène à l'intérieur?
Ça dépend, elle a combien, la bouteille?
1 200 € en carré VIP.
Putain, 1 200 €, mais moi, je bosse à RTL, je peux pas dépenser 3 mois de salaire en une soirée.
Ouais, voilà, jolie demande d'augmentation déguisée, évidemment. Discrète. Ça marchera pas. La vaccination est désormais ouverte, c'est-à-dire aux 70-75 ans, sans comorbidité, ça, c'est nouveau.
Les 75 ans sans comorbidité? Mais ça existe, un vieux sans comorbidité? Parce que c'est un petit peu constitutif de la vieillesse, la comorbidité. Ça va avec. C'est dans le package, non? Alors, ce qui est bien, par contre, pour nos seniors, c'est que le gouvernement, ça c'est bien, a systématisé les appels aux plus de 75 ans pour leur proposer des rendez-vous. Même si les rendez-vous avec les plus de 75 ans, ça fait un peu gérontophile. Tu cherches un plan réanimation dans ta région? Tu veux rencontrer les variants les plus chauds de ta région? Envoie Gaga au 6-12-12. Et puis, attention, appelez les plus de 75 ans.
C'est
pour
quoi le numéro? C'est le 6-12-12.
6-12-12.
D'accord, très bien.
Gaga au 6-12-12. Puis appelez les plus de 75 ans pour leur proposer des rendez-vous. C'est pas simple, va falloir bien articuler et parler très fort. Surtout si Annie Dupéret a oublié de remettre sa prothèse Audica. Parce que c'est vrai qu'on entend moins Robert Hossein depuis quelques temps. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais amoureux d'Annie Dupéret. Parce qu'elle était belle dans Un éléphant, ça trompait énormément.
Essaye de te rattraper, ouais.
Et c'est terrible quand un fantasme d'ado devient une petite vieille. Ça veut dire que le temps a passé. Voilà. Un jour, Clara Morgan deviendra Denise Gray, qui a commencé dans le porno. Vous le savez, Fifty Shades of Grey, c'est les premiers.
C'est l'histoire de Denise Gray, c'est ça, ouais. Un mot peut-être pour finir de cette polémique. Audrey Pulvar était très critiquée après avoir déclaré que les Blancs pouvaient participer à des réunions non mixtes à condition de se taire, de ne pas parler.
Ça devait être sympa, les dîners en amoureux avec Arnaud de Montebourg. Alors. Dis donc, là, Audrey, tu sais que mon...
Mais ferme ta gueule.
C'est violent chez Audrey. Puis elle a peur de quoi, Audrey Pulvar? Une réunion de noirs où les Blancs sont interdits, ça existe déjà. Ça s'appelle un match de basket. Alors, la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, avait déjà reconnu l'existence de réunions interdites aux Blancs.
Bah, c'est dur d'être blanc et de s'exprimer à une réunion de l'UNEF. C'est comme être de gauche et pouvoir prendre la parole sur l'heure des pros. Demandez à Laurent Geoffrin. Il morfle, hein, il a une tendinite à l'épaule. Et c'est, ouais, mais pas tous les immigrés quand même sont des délinquants. Si, bon, d'accord. Bon. Alors moi, je ne suis pas convaincu par cette idée d'interdire les blancs à toutes les réunions. Parce que concrètement, ça voudrait dire que si à leur réunion, il y avait un gars comme Jean d'Ormesson qui passait une tête, on lui dirait « Bon, ben, tu peux t'asseoir, Jean, mais tu fermes ta gueule. » En revanche, si Guy Georges déboule, on lui aurait dit « Ben, viens, mon Guitou, d'Ormesson, ferme ta gueule, mais on veut t'écouter, Guy Georges. » Vous voyez que ça ne tient pas debout, démonstration faite. Attention, ça marche aussi dans l'autre sens. J'aurais préféré échanger avec Aimé Césaire plutôt qu'avec Francis Holm. Et puis, la réunion mixte, ça marche. La preuve, vous avez pris un couillon du Sud deux fois par semaine, le mardi et le jeudi.
Oui.
Et je voudrais terminer parce que j'ai écrit un petit truc et c'est assez joli. C'est rare que j'aime mes textes, mais là j'ai écrit sur un truc sur la mixité et la différence, j'aime bien, excusez-moi d'être prétentieux, mais je te donne toutes mes différences,
ah oui,
tous ces défauts qui sont ton temps de chance.
On sera jamais
de les standards.
Des gens bien comme il faut.
C'est pas de moi ?
C'est vaguement de vous.
Avec je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont ton temps de chance. On sera jamais de standards.
C'est possible que ça ait été écrit avant, finalement.
Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont plus de talent que vous. Mais lui, quand même, un tout petit peu.
Hein. Il est très loin. Il est assez l'Everest.
Monsieur Griset, vous ne voulez pas l'emmener au Conseil des ministres ? Peut-être ça pourra dérider un peu l'ambiance, non ?
Ah, c'est évident qu'on n'est pas tout à fait dans le même style. Mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir quelques minutes comme ça, pendant lesquelles on peut à la fois admirer l'humour et puis prendre un petit moment de plaisir.
Ça fait du bien à tout le monde, le plaisir. Il est avec nous tous les mardis, tous les jeudis. Si on ne le garde pas, on vous l'enverra au ministère. Merci beaucoup. Merci à Versailles, c'est elle la reine. Dans un instant, Catherine Pégard, présidente du château, du musée, du domaine national de Versailles, l'invitée d'RTL Soir. Et elle nous emmène dans le cabinet du roi.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Elle est la présidente du château, du musée et du domaine national de Versailles depuis 10 ans. Catherine Pégard est donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Catherine Pégard. Très heureux de vous recevoir dans RTL Soir. Pendant la fermeture, les travaux continuent. Vous venez nous voir car après 18 mois, un an et demi de chantier, le cabinet d'angle du roi est prêt. Alors, de quel cabinet et de quel roi parlez-vous ?
Alors, il s'agit du bureau du roi. Ça a d'abord été un bureau pour Louis XIV, ou plus exactement un des endroits où il déposait ses collections et où il montrait à des personnes très choisies ses collections personnelles. Donc on est là dans un lieu déjà de l'intimité du roi. Et après, sous Louis XV, ça devient le bureau du roi. Le roi Louis XV en fait son bureau. Un bureau dont il a seul la clé du bureau du meuble. Et ce bureau qui est à la fois le lieu du pouvoir, bien sûr, et à la fois le lieu de son goût, parce qu'on y retrouve un sort de condensé de ce que c'est que la vie du roi en ce lieu. Alors, et c'est quelque chose d'absolument époustouflant à tous les niveaux, c'est-à-dire les boiseries sont époustouflantes, le bureau dont on va parler
secrétaire
peut-être...
Secrétaire à cylindre, hein, c'est
ce
ça.
Ce bureau à cylindre qui est une sorte de petite merveille de la bureautique du XVIIIe siècle, puisque le roi seul en a la clé, il y a des secrets partout, des tiroirs partout, il y a une pendule avec deux cadrans qu'on peut regarder de son bureau et de l'autre côté. Je pense que pour les audiences, c'était très important parce qu'on savait à la minute près quand il fallait se lever et quitter le roi. Eh bien, ce bureau qui est tout ce qui fait la vie toute la journée du roi, parce qu'il y passe beaucoup de temps.
Qu'est-ce qu'il faisait dans ce bureau ? Il recevait ses ministres ?
Il les reçoit, il écrit lui-même, à la main. Et puis, sans doute, réfléchit-il à tout ce qui l'intéresse, parce que c'est un roi très scientifique, c'est un roi qui, par exemple, adore la botanique. Et donc, je pense qu'il s'occupe aussi de ses collections. Ce que fera Louis XVI après lui. Louis XVI en fera même un bureau qui mélange alors là complètement le pouvoir et l'intimité, parce que ce roi, il aimait par exemple les tableaux en fleurs séchées.
Louis XV.
Louis XVI.
Louis XVI.
Et Louis XVI, on n'imagine pas ça du tout de lui. Eh bien, il avait plein de tableaux en fleurs séchées dans ce lieu.
Alors, on va faire un tout petit point d'histoire, parce qu'on connaît bien Louis XIV, on connaît tous bien Louis XVI. Un peu moins Louis XV, c'était qui ce roi ?
Alors ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que vous allez bien le connaître, car on va faire une grande exposition sur Louis XV en 2022, parce qu'on a remarqué comme vous que c'était un roi très peu connu. Un roi à la fois bien aimé et mal aimé. Un roi qui n'aimait sans doute pas tellement le pouvoir. Un roi qu'on dirait peut-être aujourd'hui d'un mot un peu excessif, bipolaire. Et donc ce roi...
C'est pas très sympathique quand même.
C'est pas sympathique, mais il était neurasthénique et puis en même temps gastronome et puis en même temps très très érudit, en même temps passionné par la botanique. C'est lui qui fera venir les ananas en France. Il a transformé les jardins de Trianon avec des espèces rares. Il y en avait plus de 4000. Malheureusement, Marie-Antoinette ne les a pas aimées et les a transférées au Muséum d'Histoire Naturelle et au Jardin des Plantes. Mais bon, ce roi, effectivement, il mérite qu'on s'y intéresse. Alors, c'était aussi un roi qui aimait les femmes. Ça fera partie de cette exposition. Il avait à la fois un ministre de la Culture en la personne de Madame de Pompadour et puis une femme avec un goût très aigu pour les beaux-arts. Donc, c'est un règne qui a fait éclater les arts en tout genre et dans tous les domaines. Mais en effet, après le grand Louis XIV et j'allais dire avant le roi qui va arriver à la Révolution française, sa place est un peu indécise.
Voilà, il est né en 1710, il est mort en 1774. Hein,
exactement, Louis XV, c'est un très long règne pour autant.
C'est une des 2300 pièces, hein, je crois, du château de Versailles, son bureau. C'est une pièce qui mesure combien ? C'est une grande pièce fastueuse ?
Non, c'est pas une très grande pièce. D'abord parce que ce bureau à cylindres en occupe une très grande partie. Ouais. Et puis on peut y voir d'autres meubles insignes, une commode, un médaillé choisi par lui. Donc on reconstitue cet univers, mais c'est pas une pièce qui fait peur, parce qu'on est déjà dans les petits cabinets du roi, oui. On n'est plus dans les grands appartements d'apparat. Donc on voit bien, quand on va à Versailles, et j'espère qu'on va y revenir très, très vite, voir tout cela, on voit bien la différence entre la partie publique pour le roi, et puis la partie intime,
où il peut être dans son cabinet de travail,
à l'abri des regards, et où il peut choisir aussi ses interlocuteurs et ceux qui vont venir lui raconter des voyages, des rêves, sans doute.
Alors tout ça, je le disais, a été restauré pendant un an et demi. Ça veut dire quoi ? C'est restauré à l'ancienne ou c'est restauré avec les technologies d'aujourd'hui ?
Ah non.
Comment ça se passe ? Ça mobilise combien ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant un an et demi pour refaire la pièce ?
C'est restauré totalement à l'ancienne. Je vais prendre par exemple l'exemple de la dorure.
Oui.
Les doreurs ont refait complètement les patines des boiseries, ont retrouvé l'harmonie des ors qui était sur ces boiseries. Ça, c'est un travail d'une méticulosité extrême. Ça demande 8 à 9 000 feuilles d'or. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il a fallu démonter les choses, les remettre, retravailler. Ça, c'est le travail des doreurs.
Combien de personnes ont été mobilisées pour restaurer le cabinet du roi ?
Ça mobilise beaucoup de monde, parce qu'il y a eu à la fois les tissus, la dorure, la marqueterie pour le meuble. Je ne sais pas, c'est au moins une cinquantaine de personnes qui passent sur ce chantier, bien sûr.
Ça a dû coûter une fortune, ça, non ? Enfin, pardon.
Mais... Ça coûte une fortune. On a eu la chance d'avoir un grand mécène, Rolex France, qui nous a aidés sur ce projet. Et Rolex, alors peut-être parce qu'il y a deux pendules magnifiques.
Ils ne vous ont pas demandé à les remplacer ? Non, ça va.
Ils nous ont aidés à les restaurer. Il y a une magnifique pendule sur la cheminée. Et puis, il y a cette pendule dont je parlais tout à l'heure, à double cadran, qui est une merveille du genre, une merveille de mécanique. Et je crois que Rolex était très séduit aussi, non seulement par cette pièce, mais aussi de voir ces pendules, parce que les pendules à Versailles ponctuent toute la vie. Vous savez qu'elles sonnent avec un petit écart de temps les heures. Et donc, nous sommes en train de préparer un parcours des pendule remarquable du château de Versailles. Je crois que nous aurons encore l'appui de Rolex pour pouvoir parvenir à montrer au public ces pendules, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Les pendules de Versailles, dont on parle peu, c'est exceptionnel. D'ailleurs, comme les arbres de Versailles sont exceptionnels.
Versailles est un endroit exceptionnel. On parle d'argent. L'argent, c'est un sujet sérieux. Catherine Pégard, la fréquentation du château, c'était, j'ai regardé, 8 millions en 2019, 2 millions l'an dernier.
À peine 2 millions l'an dernier.
Et en 2021, c'est zéro, hein, pour l'instant, évidemment. Combien cette crise va-t-elle vous coûter au château ? Est-ce que vous le savez déjà, ça ?
On ne le sait pas, on le sait pour 2020. 2020, c'est une perte de 70 millions. Et donc là, l'année commence effectivement dans les mêmes difficultés, même si nous avons effectivement obtenu le soutien de l'État, et puis le soutien de nos mécènes, le soutien également du département des Yvelines, qui a voté une mesure d'urgence pour le château de Versailles de 15 millions sur 3 ans. Eh bien, malgré tout, on traverse une passe extrêmement difficile.
Avec
comme
des conséquences pour le château, pour l'emploi ? Est-ce que le château est moins bien entretenu ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur job à cause de ça ? Ou est-ce que pour l'instant, vous arrivez à maintenir les équipes ?
Non, les équipes, évidemment, sont maintenues au château et sont payées chaque mois. Et pour les travaux. Je dirais même que on s'applique beaucoup mieux à les flaire, parce ouais. qu'on prend peut-être plus de temps pour faire tous les travaux que nous avons à faire. Là, vous voyez, nous venons de terminer la restauration de ce bureau et nous allons commencer à travailler sur les appartements de Madame Dubarry. Ouais. Donc, c'est dire qu'il... J'ai le coutume de dire qu'il ne faut jamais s'arrêter.
C'est la dernière favorite de Louis XV, hein, la
dernière favorite de Louis XV. Et effectivement, pour les travaux, je crois qu'il ne faut jamais s'arrêter, parce que ce qui coûte à Versailles, c'est d'abandonner des choses. Le bureau du roi, dont on vient de parler, il a été restauré deux fois, une en 1815, une en 1954. Donc c'est dire que les grosses restaurations, quand elles arrivent, elles sont très coûteuses. Donc on gagne aussi à les faire périodiquement, en continu.
J'ai une dernière question, Catherine Pégard. Comment vous écrivez Louis XV, en chiffres romains ou en chiffres arabes? Vous avez vu que le musée Carnavalet à Paris a décidé de proscrire les chiffres romains au motif que moins de personnes sauraient les lire. Là, vous êtes XV ou vous êtes...
Alors, nous
1,
sommes 5. XV, mais ouais. vous savez, c'est très amusant, parce que je vais vous raconter une toute petite anecdote. Quand les enfants viennent à Versailles, souvent, il y a des comédiens qui leur ouais. présentent le château. Et très souvent, il y a un comédien qui commence son discours comme ça en disant « Bonjour, il a une perruque. Bonjour, je suis Louis XIV. » Louis XIV, est-ce que vous pensez que c'est compréhensible de porter un nom qui est un nombre? Et tous les enfants disent « Oui, monsieur, très compréhensible. Donc je crois qu'on pourra rester avec nos chiffres romains. »
Donc le château de Versailles va rester aux chiffres romains. Oui. Merci beaucoup Catherine Pégard. Et on espère qu'on pourra bien vite venir visiter ce
On l'espère ce aussi, on vous attend. On attend tous les Français qui vont revenir cet été, j'en suis sûre.
Ah, cet été, on espère. Et il y aura du monde, croyez-le. Merci beaucoup. Dans un instant... On l'a entendu, on en parlait tout à l'heure, les billets de train sont en vente pour l'été. Embarquement immédiat pour la culture de l'actu, ça se passe voie J avec Julia Moulcou.
RTL Soir.
Thomas Soto.
RTL Soir.
18h52, c'est le train de la culture de l'actu qui va s'élancer. Bonsoir Julia Moulcou.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La SNCF a donc ouvert ses réseaux aujourd'hui pour les vacances d'été. Alors c'est parti, on prend de l'avance et on prend le train ce soir.
C'est rare les moments où on est tranquille comme ça. On peut rêver, être seul avec soi-même. Cette femme, par exemple, à quoi elle pense? J'adorerais habiter sa tête, l'avoir juste un tout petit appartement.
Non, mais qui ne ferait pas un voyage en train ou d'ailleurs n'importe comment avec Édouard Baird, quoi? Non, pas vous, Thomas, mais ça fait une place de plus pour moi. Et encore plus, moi, j'aimerais aller avec Édouard Baird dans le train des rois, le roi des trains. Ben oui, l'Orient Express, dont le mythe débuta à Paris, Gare de l'Est, en 1883. C'est le luxe absolu, le savoir-faire français à son apogée, qui fait aujourd'hui partie de notre patrimoine. Des voyages qui duraient plusieurs jours et qui vous emmenaient à Venise, Vienne ou Istanbul. Des cabines sublimes dans lesquelles on pouvait voir entrer Lawrence d'Arabie, Marlène Dietrich ou Mata Hari. Sans oublier le wagon-restaurant qui servira de bureau au général Foch et dans lequel sera signé l'armistice du 11 novembre 1918, entre l'Allemagne et les Alliés.
La marche est haute entre l'Orient Express et Sylvie Vartan.
Et pourtant, elle a tenté de la franchir. Et il n'y a pas que Sylvie Vartan qui ait été inspirée par ce train mythique. Le crime de l'Orient Express est l'un des plus célèbres livres d'Agatha Christie, qui imagina un meurtre dans ce train bloqué par la neige en rase campagne. Et de façon générale, les trains n'ont cessé d'inspirer les auteurs. Zola, dans La Bête humaine, met en lumière deux héros, le mécanicien et sa locomotive. Quant à Jules Verne, il n'aurait sans doute pas pu boucler son tour du monde en 80 jours sans ce moyen de transport moderne.
Mind the gap between the train and the platform. Attention à la marche. Ouais. Donc on passe de Jules Verne à Dorothée.
Oui, alors je sais,
vous c'est un clic-clic. Hein.
C'est un pont un peu branlant. C'est vrai, mais c'était pour arriver au cinéma, registre dans lequel on ne compte plus les films qui se passent dans des trains. Les westerns adorent les trains, pensez au train qui sifflera à trois fois. Hitchcock aussi adore le train, et il en profite pour faire disparaître une femme dans... une femme disparaît, tout était dans le titre. Enfin, Patrice Chéreau en est persuadé, ceux qui l'aiment prendront le train.
Je m'appelle Aymeric Jean-Baptiste, né le 2 avril 1926 à Limoges. Père industriel, mère, femme d'industriel. À Limoges, quand on n'est pas dans la tasse de thé, on est dans la pompe. Ouais, ça va comme ça.
C'est parce que c'est Limoges, mais vous avez tort, il y a des gens super à Limoges.
Bon, je sais bien, j'ai travaillé à France 3 Limoges, j'ai passé de très bons moments.
Eh bien voilà, alors en 99, trois Césars, dont celui du meilleur réalisateur, viendront récompenser ce film qui racontait, c'est vrai, une histoire un peu triste, celle de ces gens qui ne se réunissent que pour des enterrements.
Bon, et en chanson, à part Dorothée et Sylvie Vartan, quels autres artistes ont chanté le train? Bon, alors, vous avez tenté Richard Anthony?
Oui, ben voilà, pour commencer en douceur, mais en douceur.
Mais j'entends siffler le train, mais
Enfin, vous êtes marrant, si je ne l'avais pas prévu.
Je pense que depuis le temps qu'il chante, il est passé le train qu'ici. Enfin, je ne pas dire.
Si je n'avais pas prévu Richard Anthony, je sens que vous me l'auriez reproché. Bon, on peut poursuivre en beauté, avec cette fois-ci Françoise Hardy et Jacques Dutronc qui reprenaient avec le flegme et l'élégance qu'on leur connaît un titre de Jean Sablon et de Mireille.
Dans un instant, le train démarre.
On est obligé d'écouter en entier.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Oui, mais vous savez que j'aime. Et voilà. Vous savez que j'aime qu'on se quitte en farandole. Du coup, j'en ai trouvé. J'ai trouvé le tube absolu de la farandole, celui des Doobie Brothers. Alors montez le son. C'est vraiment l'heure de la boum maintenant sur RTL.
Quel rapport avec le train ?
Bah, Long Train Running.
Ah, ça s'appelle Long Train Running.
Mais oui.
Ah, ok.
Mais ça commence dans des gares.
Vous savez, Cavrivière, il a tout compris. Il finit sa chronique par du Goldman. Vous, ça rentre pas, quoi. Il y a un truc. Bon, Grégory Carani, le réalisateur, s'il vous plaît, remettez-nous.
Goldman.
Non, remettez. Ah. Oui, bien sûr, tout le monde. Mais voilà, on s'est compris.
Vous êtes un romantique, en fait, Thomas. Les gens ne le savent pas.
Loin.
Bon, à demain.
Pars-toi avec Edouard.
En fait, il dit ça, mais il ne le pense pas.
Non, on est d'accord.
Promettez-moi d'être bien sage.
Pardon, mais il y a une pub avant la météo, on est obligé de la passer.
Tous les jours.